VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition des 18h30, temps universel de ce 20 août 2019. John Lydon à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. Au Cameroun, Julius Ayuk Tabe, leader des séparatistes anglophones, a été condamné à la prison à perpétuité pour terrorisme et sécession. Des questions demeurent au Burkina Faso après la frappe d'une base militaire dans le nord du pays, frappe qui a fait au moins 24 morts.
Moi, ce qui me fait peur, c'est le silence des autorités qui donne l'impression d'une incapacité et d'une incompétence de l'État et que les populations sont naturellement abandonnées à leur triste sort.
Au Soudan, la composition du Conseil souverain se fait toujours attendre. Condamnation unanime de Pékin et de Moscou après le premier essai par les États-Unis d'un missile de portée intermédiaire. Et puis ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Cameroun, les leaders séparatistes Sissoukou Ayuk Tabe et 9 autres partisans anglophones ont été condamnés à la prison à perpétuité pour terrorisme et sécession par un tribunal militaire de Yaoundé. Nathalie Barche.
Sissoukou Ayuk Tabe, qui s'était autoproclamé en 2017 président de l'Ambazonie, du nom de l'État que des séparatistes anglophones veulent fonder, a été condamné à la prison à perpétuité avec 9 de ses partisans par un tribunal militaire de Yaoundé. Cette peine de prison à vie a été assortie d'une amende collective de 250 milliards de francs CFA, selon un des avocats de la défense, maître Joseph Frou. Monsieur Ayuk Tabe a été interpellé en janvier 2018 à Abuja avec 46 autres indépendantistes par les services de renseignement nigérians. Ils ont été transférés à Yaoundé. Une extradition jugée illégale par la justice nigériane en mars 2019. Cette condamnation tombe alors que des signes d'ouverture étaient perceptibles ces derniers mois. Le président Paul Biya s'est dit prêt en mai à organiser un dialogue. Le leader séparatiste s'est dit disposé à y participer, mais uniquement à l'étranger, et sous condition de sa libération et de celle de tous les autres détenus dans le cadre de la crise anglophone.
Et toujours à propos du Cameroun, d'après Human Rights Watch, des dizaines de détenus séparatistes anglophones ou membres de l'opposition ont été torturés par les forces de sécurité après avoir été extraits d'une prison de Yaoundé à l'issue d'une mutinerie en juillet. L'ONG se base sur les témoignages de 14 détenus et plusieurs avocats. Le 22 juillet, des détenus de la prison centrale de Yaoundé s'étaient mutinés pour protester contre leurs conditions de détention. En RDC, le président Félix Tshisekedi a annoncé ce mardi qu'il allait faire de l'électricité la priorité économique de son mandat, alors que seuls 8% des habitants de la République démocratique du Congo donc y ont accès. J'ai demandé que l'accès à l'électricité soit inscrit comme la première priorité économique de mon quinquennat, a déclaré M. Tshisekedi à l'ouverture du premier forum national sur l'électricité en RDC. Aujourd'hui, on évalue le taux d'accès à l'énergie électrique à 8%, dont 1% en milieu rural, a-t-il souligné, une situation qui risque de perdurer à cause du manque de mesures d'application de la libéralisation du secteur décidée en 2014, a-t-il déploré. Le premier forum sur l'électricité en RDC se tient à Matadi, dans le Congo central, à 350 km dans le sud-ouest de Kinshasa. Cette province abrite les barrages hydroélectriques Dinga 1 et 2. Au Soudan, les militaires et les leaders de la contestation n'ont toujours pas annoncé la composition du Conseil souverain prévu initialement 2 jours plus tôt. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Promise pour dimanche en vertu d'un accord de transition, la composition du Conseil a été retardée à ce mardi. Ce report a été demandé par les forces pour la liberté et le changement qui sont revenus sur les listes de noms. Le Conseil souverain doit être composé de 6 civils et 5 militaires. Il va être dirigé par un général durant les 21 premiers mois, puis par un civil les 18 mois restants. Selon l'accord, le Conseil devait indiquer aujourd'hui s'il valide comme premier ministre l'économiste Abdallah Hamdok. Ce dernier devra ensuite former un gouvernement le 28 août. Un parlement de transition doit aussi être mis en place. Ces organes devront permettre au pays de tourner la page de 3 décennies de règne sans partage du général Omar el-Béchir, destitué en avril après 3 mois de manifestations dans tout le pays. Hier, M. Béchir a comparu devant un tribunal pour répondre à des accusations de corruption. Il a plaidé coupable.
Une nouvelle marche organisée aujourd'hui pour protester contre la détérioration de la situation économique au Zimbabwe, prévue dans Gweru, 3e ville du pays, a été interdite par la police. Il s'agit de la 3e marche d'opposition interdite en moins d'une semaine après celle de Harare et Bulawayo. À chaque fois, la police est déployée pour empêcher les manifestants de défiler dans les rues et d'atteindre les points de rassemblement. En Algérie, un millier d'étudiants ont manifesté ce mardi pour la 26e semaine consécutive à Alger au milieu d'un fort déploiement policier. Les établissements universitaires sont toujours fermés en raison des vacances, mais le cortège était plus dense que les semaines précédentes. Les manifestants ont promis de maintenir leur mouvement jusqu'au départ du régime ponctuant, slogan et chant patriotique par des youyous.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie et la Chine ont condamné aujourd'hui le premier essai par les États-Unis d'un missile de portée intermédiaire. Moscou et Pékin dénoncent le risque d'escalade des tensions militaires et d'une relance de la course aux armements. Les précisions avec Irène Herman-Umbo.
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, regrette une escalade des tensions militaires, tout en assurant que Moscou ne cédera pas à la provocation. La Chine a de son côté déploré une escalade des confrontations militaires qui, selon elle, aura de graves conséquences négatives pour la sécurité régionale et internationale. Elle a accusé Washington de chercher la supériorité militaire unilatérale. Ce test américain marque la mort du traité de désarmement qui abolit l'usage par la Russie et les États-Unis des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km, officiellement suspendu par les deux puissances il y a moins d'un mois. Cet essai américain est le tout premier depuis la guerre froide. Il a été effectué dimanche depuis l'île de San Nicolas au large de la Californie. Selon le Pentagone, il s'agit d'une variante d'un missile de croisière d'attaque sol-sol Tomahawk. Des images publiées par l'armée américaine montrent le missile tiré à proximité du rivage depuis un système de lancement vertical Mark 41.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a marqué mardi une certaine désapprobation face à la multiplication des tirs de missiles nord-coréens en léger décalage avec Donald Trump, qui assure que ces tests ne posent aucun problème. Ils ont tiré des missiles balistiques de courte portée. J'aurais préféré qu'ils ne le fassent pas, a-t-il admis sur une chaîne américaine. La Corée du Nord a tiré vendredi 2 missiles lors du 6e du genre en 3 semaines. Les dirigeants nord-coréens Kim Jong-un a fait savoir que ces essais balistiques étaient des représailles aux exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, que le Nord considère comme une provocation. À Hong Kong, la chef de l'exécutif Carrie Lam espère un retour au calme suite à la grande manifestation pro-démocratie sans violence des dimanches. Cependant, elle refuse toujours de céder aux demandes de protestataires. Abdourahman Dia.
Lors d'une conférence de presse, Carrie Lam s'est réjouie du fait que de nombreuses personnes ont participé à une manifestation qui a globalement été pacifique. J'espère de tout cœur que cela marque le début d'un retour au calme et d'une fin des violences, a-t-elle ajouté. Des centaines de milliers de personnes ont envahi dimanche le centre de Hong Kong dans une nouvelle manifestation qui, contrairement au rassemblement précédent, n'a pas dégénéré en affrontement entre radicaux et forces de l'ordre. Cette grave crise politique est née en juin du rejet d'un projet de loi de l'exécutif local qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine. La chef de l'exécutif a certes adopté un ton plus conciliant, mais refuse d'annoncer l'abandon de ce projet de loi. Ce texte est suspendu, mais les manifestants exigent simplement son annulation.
Le premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé mardi sa démission et la fin du premier gouvernement populiste, accusant le chef de la Ligue Matteo Salvini d'avoir été irresponsable en faisant éclater la coalition au pouvoir le 8 août. Dans un discours solennel au Sénat, M. Conte a tensé son ministre de l'Intérieur, estimant qu'il n'a fait que poursuivre ses propos, ses propres intérêts et ceux de son parti en cherchant à capitaliser sur des sondages qui les créditaient d'une ample majorité au Parlement dans le sillage de leur score record aux Européens, soit 34%. Et puis les représentants britanniques cesseront d'assister à la plupart des réunions de l'Union européenne à partir du 1er septembre, à l'exception de celles concernant l'intérêt national comme la sécurité. C'est ce qu'annonce ce mardi le ministère chargé du Brexit. Le Brexit, en principe, est prévu le 31 octobre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
Les employés d'Orange au Niger ont entamé une grève de 2 jours pour obtenir des négociations salariales avec cette filiale de l'entreprise française en quête d'un repreneur. Les grévistes veulent également que leurs emplois soient préservés dans le cadre d'un éventuel contrat entre Orange et un repreneur. Sur les plus de 52 000 emplois que compte Orange Niger, seuls 120 emplois pourraient être maintenus par le nouveau repreneur. Les protestataires promettent de reconduire la grève s'ils n'obtiennent pas satisfaction. La banque égyptienne du Caire s'attend à vendre sa participation minoritaire d'ici le début de l'année prochaine. Elle compte vendre 30 à 40% de ses actions au moyen d'une augmentation de capital et de la vente d'une participation à un investisseur stratégique. En 2008, une transaction visant à vendre la banque égyptienne a été annulée et une offre publique a été reportée plusieurs fois ces dernières années. Pour terminer cette minute éco, les exportations marocaines de tomates vers l'Union européenne ont progressé de 10% entre octobre 2018 et mai 2019, selon le service de statistiques Eurostat.com. Le Maroc a vendu 426,07 millions de kilos de tomates, plus que l'année précédente où les ventes avaient atteint 385,88 millions de kilos. Les tomates du royaume chérifien ont rapporté quelque 481 millions d'euros, soit 20% de plus que la dernière campagne.
Et nous retrouvons tout de suite Yacouba Ouidraogo pour les nouvelles sportives. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par le Sénégal, pas de match amical.
Oui John, pendant que la plupart de leurs confrères africains seront en train de disputer des matchs amicaux à l'occasion de la date FIFA prévue en septembre, les Lions de la Teranga, eux, en seront dispensés. D'après leur fédération, je cite, « cette décision permettra d'éviter une surcharge de compétition et facilitera une meilleure récupération en vue des compétitions internationales à venir ». L'instance nationale du football sénégalais a ajouté que des dispositions sont en train d'être prises pour que l'équipe nationale puisse reprendre les matchs amicaux lors des dates FIFA d'octobre prochain, avant le début en novembre, des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021.
Paul Put rejette les accusations de corruption en Guinée.
Accusé de corruption et radié à vie de toute activité liée au ballon rond en Guinée par la Fédération guinéenne, Paul Put a nié toutes les accusations portées contre sa personne. « Je n'ai jamais, au grand jamais, racketté qui que ce soit, ni un joueur, ni un membre de mon staff. Tout est faux, archi faux », a déclaré le technicien belge dans des propos relayés par BBC Afrique. L'ancien sélectionneur du Burkina Faso exige que des excuses publiques lui soient présentées, car, dit-il, son image a été ternie par cette affaire.
Et puis Manchester United condamne des injures racistes contre Paul Pogba.
Tout le monde à Manchester United est dégoûté par les injures racistes proférées contre Paul Pogba la nuit dernière et nous les condamnons catégoriquement, ont déclaré les Red Devils. Ces insultes ont été proférées sur les réseaux sociaux après le pénalty manqué par l'international français d'origine guinéenne face à Wolverhampton. Paul Pogba est le troisième joueur en Angleterre victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux la semaine dernière pour avoir manqué un pénalty après le jeune attaquant anglais de Chelsea, Tammy Abraham, et l'ancien joueur de Sochaux, Yakou Meïté, qui évolue aujourd'hui en D2 anglaise avec Reading.
Et on termine, Yacouba, par un maillot de basket de Barack Obama adjugé à 120 000 dollars.
Et oui, un maillot de basket ayant appartenu à l'ancien président américain s'est vendu aux enchères pour 120 000 dollars, d'après la maison qui a organisé la vente au Texas. Le maillot portant le numéro 23 appartenait à Barack Obama lorsqu'il avait 18 ans et était en terminale à Hawaï où il habitait alors. Son prix avait été estimé avant la vente aux environs de 100 000 dollars. Barack Obama est un fan de basket, un sport qu'on l'a vu souvent pratiquer quand il était à la Maison Blanche avec le personnel de la présidence, les célébrités ou encore d'autres visiteurs.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Burkina Faso. Au lendemain de l'attaque terroriste contre un détachement de l'armée burkinabé dans le nord du pays, les autorités ont donné jusque-là très peu de détails sur les circonstances de ce carnage qui a fait au moins 24 soldats tués. Et parmi les réactions, celle de l'opposant à Blaise Ouédraogo, qui estime que le pouvoir Kabore doit tirer les conséquences de son échec à défendre le territoire. Le président du Faso, autrement, est interrogé par Bagassi Koura.
Je voudrais exprimer toute ma désolation par rapport à ce qui s'est passé à Koutougou et je suis même révolté. La situation actuelle représente une grande menace pour l'existence du Burkina Faso en tant que territoire et en tant que communauté de vie et de destin. Ce qui me fait peur en tant que citoyen, c'est le silence des autorités qui donne l'impression d'une incapacité et d'une incompétence de l'État et que les populations sont naturellement abandonnées à leur triste sort.
Révolté, est-ce que c'est le nombre de morts ou est-ce que c'est la manière dont cette crise a été gérée?
C'est l'ensemble. On a l'impression que ceux qui nous gouvernent sont incapables, sont incompétents pour résorber donc cette situation qui n'a que trop duré. Moins de 4 ans, on a enregistré pas loin de 1000 morts dus au terrorisme. La Haute-Volta et le Burkina Faso n'ont jamais connu cette situation. Nous sommes descendus au fond. Quand on observe l'évolution de la situation, aujourd'hui le Burkina est à terre. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de sécurité, le social gronde. Somme toute, nous sommes dans une situation où l'existence même du Burkina Faso est remise en cause. Dans une conférence de presse que le Faso autrement a tenu ce matin, nous avons purement et simplement demandé au président Kabore, qui est le chef suprême des armées, compte tenu du fait qu'il a lamentablement échoué, qu'il accepte de remettre sa démission. Et nous avons, par la même occasion, demandé au chef de file de l'opposition, qui est dans une situation d'inertie inexplicable et d'accompagnement du pouvoir, que lui aussi, il démissionne.
Et ça va davantage plonger le pays dans la crise, non?
Mais le pays est déjà en crise. Malheureusement, on ne voit pas de solution poindre à l'horizon. C'est ça qui fait que nous avons peur. C'est ce silence des gouvernants à apporter une solution idoine pour redresser la barre. Et c'est pour cela que nous disons avec force, il faudrait qu'on arrive à cette situation à cause du besoin de redevabilité, que le chef suprême des armées, le président Kabore et tout le commandement des forces de défense et de sécurité, qu'ils rendent compte au peuple de la situation réelle sur le terrain. On recule. Plus de 300 000 personnes déplacées internes. Et nous sommes en saison des pluies et c'est bientôt la rentrée des classes. Comment nous allons résoudre tous ces problèmes?
Ablassé Ouédraogo, président du Faso Autrement, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La prison à vie contre les 10 leaders séparatistes anglophones. Ce verdict a été rendu ce matin par le tribunal militaire de Yaoundé à l'issue d'un procès émaillé de perturbations. Comment les Camerounais réagissent-ils à cette sentence? Reportage sur place à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les avocats des 10 leaders séparatistes anglophones sont encore sous l'effet de la sentence rendue au petit matin contre Ayouk Sissigou et les 9 autres devant le tribunal militaire de Yaoundé. Donc Christopher Mfé, avocat.
Comment juger quelqu'un qui a à sa charge la condamnation à vie sans avocat? C'est la violation pas possible de tout instrument du monde. Ils doivent être condamnés à vie. On ne dit pas qu'on ne connaissait pas. Et nous disons, ils ont vite aller en besoin sans toutefois suivre la procédure normale, nous disons c'est le braquage judiciaire, c'est le cinéma.
Au cours de l'audience, les avocats des leaders séparatistes ont recusé le juge militaire en charge de l'affaire. Ce dernier n'a pas cédé à cette procédure. Maître Don Christopher, avocat des leaders séparatistes anglophones, craint que la décision ne fasse entorse à la volonté du dialogue.
Tout un gouvernement qui veut, il prône la dialogue. Est-ce que c'est le sens de la dialogue là-bas? Vous avez pris les gens, dialogue avec eux, vous comptez seulement les infliger la peine à vie. Ils crient la rentrée scolaire. Est-ce qu'ils ont, à travers ces décisions, satisfait les anglophones? On dit non.
Les Camerounais ont appris la nouvelle de la condamnation à vie des leaders séparatistes avec surprise. Ils ne sont pas pour autant indifférents au verdict rendu. Joseph Yomba Boni, juriste conseil.
L'État du Cameroun a usé d'un pouvoir qui, sauf erreur de ma part, est le sien, celui de préserver l'intégrité du territoire camerounais.
Jean Abanda est expert en santé publique et pense que l'État du Cameroun n'a pas appuyé sur la pédale douce avec ce verdict.
Le Cameroun traverse une situation sécuritaire sans précédent. Je pense pour apaiser les tensions, et on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire en dissuadant ceux-là qui veulent partir parce qu'ils ont quand même des raisons.
Au sein du parti au pouvoir, le verdict est considéré à sa juste valeur, mais n'exclut pas la volonté de dialoguer du pouvoir, selon Jean-Baptiste Atemengue, militant du RDPC.
Je suis solidaire de cette décision parce que cette décision a été rendue au nom du peuple camerounais. Il n'y a pas de pardon ni de réconciliation sans justice. Et cela n'est pas incompatible avec le dialogue dont ensuite le président de la République dispose d'un certain nombre d'outils que lui confère la Constitution pour ensuite apaiser la situation, parce que c'est le vœu de tous les Camerounais que...
En janvier 2018, les 10 leaders séparatistes anglophones avaient été arrêtés au Nigeria et extradés au Cameroun. Leurs avocats ont annoncé qu'ils vont interjeter appel au verdict rendu ce matin. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La question de la circulation préoccupe les autorités maliennes. À Bamako, la capitale du pays, pour rendre les voies fluides, le gouvernement vient de lancer l'opération Circulation alternée. 5 grandes voies de la capitale malienne sont concernées par cette opération qui devrait permettre de réduire considérablement les embouteillages, surtout aux heures de pointe. Les détails dans ce reportage à Bamako de Kassim Traoré.
Circuler à Bamako aux heures de pointe relève du parcours d'un combattant. C'est pourquoi l'opération circulation alternée a vu le jour. Il s'agit pour les Bamakois de se rendre dans les lieux de travail ou à la maison sans difficulté. Ibrahim Abdulli, ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine.
Cette opération est la première mission et la nouvelle mission qui a été assignée au département des transports, à savoir la mobilité urbaine. Et c'est la première expérience pratique que nous avons commencée ce matin, c'est-à-dire la circulation alternée. Et c'est le premier objectif qu'on devait mettre en application. Et après, il y en aura d'autres à moyen terme et à long terme.
Le matin, la mesure s'étend sur 2 heures. De 7 heures du matin à 9 heures. Le soir, elle dure 3 heures, de 16 heures à 19 heures.
Peut-être je fais à peu près 20 à 25 minutes pour arriver au service. Ce matin, je suis sûr qu'en 15 minutes, je serai au service.
Ça va. Moi, je pense que vraiment, c'est la meilleure formule qu'on vient de trouver. On sort bien, on arrive bien. Moi, je pense qu'il faut continuer avec ça.
Vraiment, moi, je tiens que les policiers continuent avec ça. Nous, les motocyclistes, il faut qu'ils nous suivent très bien.
Vraiment, c'était bien. Ça nous permet d'aller vite à l'autre bout.
Aujourd'hui, là, on est très content. On doit partir au bleu, bon. On va partir vite, quoi.
Très satisfait pour ça. Vraiment, ça va.
Les 5 voies concernées sont l'avenue Alcotz, l'avenue de Loya, l'avenue de la CDAO, l'avenue Cheikh Zayed et l'avenue Martin Luther King.
Sensibiliser les gens et vraiment, dites ça longtemps, mais comme ça, là, vraiment, c'est pas du tout facile. Ah, je ne veux pas, je n'ai pas le choix. C'est ça, obligé vraiment de de respecter la loi. Si, ni n'est au-dessus de la loi. Donc je n'ai pas le choix, je serai obligé de passer.
Je devrais virer, mais ça a changé. Moi-même, ça m'a étonné de voir que la route est barrée, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Notre société se trouve là-bas, donc moi je sors jusqu'à Sébéningoro. Donc peut-être que ça ne m'arrange pas, quoi. Ça m'arrange pas.
Certains usagers de la route demandent plus de sensibilisation, car la mesure a été lancée sans aucune communication.
Parce que nous avons remarqué qu'il y a des jours de seulement, on voit que la mesure commence à porter fruit parce qu'il n'y a plus d'amotage, on circule librement et qu'ils continuent à faire la sensibilisation, sensibiliser la population. Mais les gens ne connaissent pas d'abord. Le message, même si ça a été divisé, ça n'a pas été largement divisé. Qu'ils continuent à faire passer les messages pour que les gens puissent comprendre mieux et que nous puissions aussi adhérer à la mesure, accompagner les ministères et que la police aussi comprenne mieux pour que la population aussi fasse ce qu'elle a à faire.
L'opération circulation alternée, qui est l'une des recommandations des journées de réflexion sur la mobilité urbaine, sera testée pendant un an. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, cela fait 400 ans que les premiers esclaves africains sont arrivés aux États-Unis, marquant le début de plus de deux siècles d'esclavage en Amérique. Des millions de Noirs ont vécu dans la servitude jusqu'à l'adoption du 13e amendement qui abolit l'esclavage en 1865. Comment l'esclavage a marqué l'histoire des États-Unis? Quelles sont les séquelles de cet héritage? Quels progrès ont été réalisés? Les Africains américains et leur héritage? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les femmes, la paix et la sécurité sont à l'ordre du jour d'une conférence militaire qui se tient à Accra, au Ghana, cette semaine. Les experts affirment que la présence accrue de femmes dans les forces de maintien de la paix rendrait les missions plus efficaces et permettrait aux civils de se sentir plus en sécurité. C'est un reportage d'Estée Nock à Accra, rendu par Nanit Talani.
Des femmes militaires du monde entier participent à la conférence 2019 sur les efforts pour discuter de leur rôle dans les opérations de maintien de la paix en Afrique. Vita Nyekanga, adjudante de l'armée ghanéenne, a servi dans des missions onusiennes en Afrique et au Liban. Elle affirme que les femmes se sentent généralement plus à l'aise pour parler à d'autres femmes.
Quand nous voyons les femmes de la région en train de cuisiner, nous essayons de les rejoindre pour faire la cuisine. Dans les fermes, nous allons les aider et dans le domaine médical, nous essayons d'interagir avec elles et nous les voyons se rapprocher. Alors nous obtenons des informations vitales de leur part.
Connu pour ses contributions aux forces de maintien de la paix, le Ghana déploie un nombre de femmes dans un domaine qui en compte généralement peu. Actuellement, les femmes représentent 4,9% des soldats de la paix dans le monde, mais l'objectif des Nations Unies est d'atteindre les 15% d'ici 2028. Des études montrent que la présence de femmes dans les opérations de maintien de la paix améliore l'efficacité de la mission et entraîne une plus grande fréquence de signalement des violences sexuelles ainsi que des niveaux moins élevés d'exploitation et d'abus sexuels. Constance Ediani Afenou, brigadier général des forces armées ghanéennes.
Les femmes ont des rôles spécifiques dans les zones de conflit où nous avons des cas de viol et toute autre forme de violence. Nous avons des femmes qui, lorsqu'elles sont en patrouille, se rapprochent de ces femmes qui peuvent ainsi leur parler et obtenir de l'aide comme il se doit.
Ces dernières années, il y a eu de nombreuses allégations selon lesquelles des soldats de la paix avaient abusé sexuellement de civils dans des zones de conflit en Afrique. Les Nations Unies ont alors lancé un programme visant à améliorer les performances et le comportement des casques bleus en mettant l'accent sur le leadership, la responsabilité et la nécessité d'augmenter la présence des femmes au sein des missions de maintien de la paix.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace out.
Et c'est la fin de cette édition mise à nom de par Firmin Max Koyawida. Michael Dumbeski était à la console. John Linden était à la présentation de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Bonsoir.